jusqu'à 9h30. C'est
que la Mauricie se lève
avec Marc-André Pelletier.
7h54, on parle politique avec Yves-François Blanchette. Bon matin.
Ah non, pas politique.
Ah oh là, t'es pas déjà blasé et cynique, j'espère?
Non, non, cynique, jamais.
Bon, parle-moi de
jamais,
ça.
Jamais, jamais. Non, non, c'est le fun de faire la politique quand tu la fais en faisant juste en jaser. C'est comme un peu le sport.
Oui, c'est, ben
tu
oui.
Tu parles de sport, mais t'as pas besoin, comme toi, t'as pas besoin d'aller embarquer dans un char en fin de semaine puis d'aller risquer de faire du tonneau.
Oui, c'est peut-être mieux comme ça, effectivement. Mais je refais les trios constamment et les formations politiques aussi à l'occasion. Mais écoute, en plus, t'as un pas pire score de ce temps-là. Ce dont on se parle le matin se concrétise plus souvent qu'autrement dans la journée.
Oui, hein? Oui. Puis j'en ai encore un autre pour
ben oui, c'est ça.
Matin. Écoute, ça finit plus. Ça finit plus. D'abord, notre nouvelle... dont je savais humblement, je savais même pas que c'était tant que ça une nouvelle. Quand j'ai dit que les élections risquaient d'être déclenchées plus tôt, j'ai pas mis un niveau de certitude très élevé. C'était une hypothèse parce que les premiers ministres décident ça à la dernière minute. Là, bon, ben Philippe Couillard a l'air du chat qui a mangé le canari. Il y a encore une petite plume jaune qui dépasse sur le coin de la bouche. Là, tu sais, c'est clair qu'ils s'en vont vers ça parce qu'ils pensent que ça va piéger la coalition Avenir Québec. Eux. Puis c'était la nouvelle d'hier, ça et Pierre-Carl Péladeau, dont on parlera dans quelques minutes. Eux, ils pensent que c'est ça qui va arriver, mais ils aimeraient beaucoup mieux dire que c'est parce qu'ils veulent avoir plus de temps pour rencontrer le monde puis mieux expliquer leur programme. Mais dans les faits, puis c'est pas la faute à François Legault, il y a plein de nouveaux mondes dans son équipe, puis du nouveau monde, ça peut faire des erreurs. Et lui-même, on l'a vu à Québec cette semaine, est capable parfois de s'enfarger, on va le dire comme ça.
Oui.
Alors, c'est correct. Et en attendant, M. Couillard va aller faire les comtés qu'il est sûr de pas gagner. Donc, dans mesure où ils ont l'intention de faire une bataille en Mauricie, durant la campagne, M. Couillard va venir en Mauricie. Par contre, il est à Matane aujourd'hui. Puis Matane, Pascal Bérubé du Parti québécois l'a gagné avec 61% des votes en 2014.
Ouais.
Pascal est au sommet de sa popularité personnelle. Ils vont aller faire ça aujourd'hui parce qu'ils savent très bien là, que même dans le fantasme les plus fous, ils n'ont aucune chance, les libéraux, de gagner Matane. La CAQ va s'essayer un petit peu plus fort, mais je pense que personne, s'il restait un seul péquiste, ce serait Pascal Bérubé. Et François Legault va dire, oui, amenez-en une campagne, amenez-en, moi je suis prêt. Mais comme il le dirait lui-même, on verra.
Oui, exactement. Et en tout cas, ça rend ça intéressant de l'avoir à date fixe, peut-être encore un petit peu plus que les autres années, à mon sens.
À part que toi puis moi, on aime commenter la politique, comme d'autres aiment commenter le football. Moi, j'aime les deux. Il y a des gens qui vont finir par en avoir un rôle pompon.
Oui.
Ça fait une campagne électorale qui ne finit plus. Fait que les passionnés et les aficionados de politique aiment ça, mais il y a des gens qui disent « peux-tu parler d'autre chose? » Et ça fait qu'il y a des gens qui décrochent un peu de l'actualité et qui vont dans la boîte de vote, puis ils lancent un 30 sous dans les airs quasiment. Là.
Effectivement, mais bon, quand même, c'est là qu'on va voir les stratégies les plus payantes. Écoute, ça a été l'un de nos grands monuments, puisqu'on parle aujourd'hui des 30 ans du décès de Félix Leclerc. Nelly Gant, c'en est un autre grand, et c'est un comté également. Et qui n'ira pas là? C'est la question qu'on se pose.
Oui. Mais oui, c'est ça, c'est mon scoop, c'est quelqu'un qui ira pas, puis je peux pas vous l'affirmer, parce que je ne suis pas le Parti libéral du Québec, je t'apprends ça. mais il y a une dame, une avocate chez Robinson Shepherd Shapiro, qui s'appelle Brigitte Garceau, qui est impliquée, qui l'a été, mais qui l'est probablement encore impliquée dans le Parti libéral du Canada, et qui est intéressée par la candidature pour le Parti libéral du Québec dans Nelly Gant, qui est l'ancien comté de Yolande James, qui a été par la suite occupé par Martin Coiteux. Là, on fait un détour. Est-ce que tu te rappelles de Beryl Wiseman?
Hey boy!
C'est l'éditeur d'un journal parfois sulfureux de l'ouest de Montréal qui s'appelle le Suburban. Des fois, ça mange du Canadien français.
OK.
C'est un candidat à la mairie de Westmount en 2017 qui a eu un gros 8,8% des votes. Et c'est aussi quelqu'un qui avait été banni du Parti libéral du Canada par Martin Cochon. Par Paul Martin. Pourquoi je dis Martin Cochon? C'est dans un autre bout de la chronique que je vais parler de Martin Cochon. Par Paul Martin, c'est à cause du mot Martin, voilà. Et qui avait envoyé d'ailleurs notre regretté collègue Jean Lapierre faire le travail d'expulser M. Wiseman
du
Parti libéral du Canada. Donc, on comprend que le personnage, c'était lié au scandale des commandites. Ils voulaient plus le voir, ils l'ont sorti. Il est revenu un peu par la porte d'à côté. C'était un proche de Michael Ignatieff, dont il disait le plus grand bien du monde, même si tout le monde a oublié Michael Ignatieff, qui était quand même un intellectuel de très haute envergure. On n'enlèvera pas tout, là, ça serait pas correct.
Non, donc, mais mettons, en tant que charisme, c'était moins présent un peu.
C'était moins ça. Et la madame, Brigitte Garceau, j'y reviens, serait la blonde de M. Wiseman.
Oh.
Alors moi j'ai dit, êtes-vous bien sûr de ça? La réponse, on est bien sûr de ça, photo à l'appui. Bon, OK. Et les libéraux ne savaient pas.
Ils savaient pas.
Le Parti libéral du Québec ne savait pas qu'une personne qu'ils envisageaient comme candidate dans Nelly Gant, puis quand tu donnes une candidature dans Nelly Gant, tu donnes le comté parce que les libéraux vont avoir entre 85 et 90% du vote, ils savaient pas que c'était la conjointe de ce monsieur qui n'a jamais été condamné pour rien, mais qui a été en effet expulsé du Parti libéral du Canada parce qu'on voulait l'associer au scandale des commandites.
Mais comment ça se fait qu'ils ne savaient pas ça? Je veux dire, le background check, on le fait-tu de moins en moins ou c'est qu'on est surpris?
Je
ne
sais pas trop. Ils ne l'ont pas encore donné, la candidature. Ils l'ont rencontré à quelques reprises.
Ouais, quand même.
C'est un peu bizarre, en effet, que moi je l'ai su puis qu'eux autres ne le sachent pas. Mais là, ils le savent. Puis d'après moi, il y a des bonnes chances qu'elle soit moins candidate. D'autant plus que l'autre candidature envisagée, c'est une madame qui s'appelle Jennifer Macaroni, qui est la présidente de l'Association des commissions scolaires anglophones, et c'est une anglophone. Et les gens de Nelly Gant, après M. Coiteux, un peu comme les gens de Westmount-Saint-Henri, après M. Chagnon, souhaitent avoir des candidats anglophones. Donc, je pense que ceci va régler cela, et que on n'aura pas envie au Parti libéral d'avoir une aura de scandale des commandites, d'autant plus que la candidate potentielle dans Westmount-Saint-Henri serait la fille du juge Gomery qui a traité le scandale.
La belle ironie.
Ouais. Voilà. C'est un petit scoop matinal.
C'est quand même sympathique. Mais effectivement, je reviens sur le background check. Ils ont beau l'avoir rencontré seulement quelques fois, ou en tout cas discuter comme ça, cruiser sur le coin du bar, reste que il me semble qu'on devrait peut-être effectuer davantage de vérifications, mais bon, c'est autre chose. Pendant ce temps-là, Pierre-Carl Péladeau, j'ai pu par quel bout le prendre, son jugement.
Ouais. Je pense qu'il est vraiment dans le trouble. Il est vraiment dans le trouble. Et là, on revient sur le cas récent où il a avancé 135 000 $ de plus à sa campagne à la direction du Parti québécois en 2015 que ce qu'il n'avait obtenu de financement populaire, ce qui était déjà beaucoup parce que c'était plus de 200 000 $. On peut donc supposer que M. Péladeau a dépensé autour de 350 000, ce qui est probablement trois fois plus que son plus proche adversaire. Peut-être qu'il n'avait même pas besoin de ça pour gagner, mais il l'a fait. Alors, voilà. Et à défaut de pouvoir compléter son financement, parce qu'il était même plus en politique, fait que plus personne lui donnait de l'argent, puis il l'aurait probablement jamais complété pareil, ben il a dit « je vais attendre la bonne date, que ça soit devenu légal, mettons, ou acceptable, et sans avoir une pénalité en termes d'éligibilité, je vais payer moi-même le 135 000 $ ». Puis là, la loi s'appliquant, on lui inflige une amende de 27 000 $ et lui, il décide de pas payer l'amende. Ce qui est un peu choquant entre toi et moi, parce que tu disais, un peu toi, parce que t'es riche, tu peux t'en aller en politique, tu te payes un contournement des règles, et quand arrive une amende, tu veux pas payer l'amende. Mm-hmm. Sauf que là, il doit donner trop d'ouvrages à ses avocats dans mille et un conflits, ils en ont échappé une. Ils n'ont pas vu qu'en vertu de la loi 1, qui a été modifiée ensuite par les libéraux, il se trouve à exclure une entreprise dont il a le contrôle de tout octroi de contrat public. Donc, nommément québécois. Cette loi-là a été faite pour empêcher le financement politique dans un contexte de collusion et de corruption. Mm. C'est pas de ça dont il est question ici, pas en tout, mais la loi, elle est faite pour ça, et c'est en vertu de ça que lui se fait disqualifier québécois. Alors, autant, moi, je dis que l'esprit de la loi était contourné si quelqu'un était assez riche pour payer et qu'elle ne s'applique pas à lui, ce qui était le cas de M. Péladeau, et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. Par contre, ce qu'il a fait n'a rien à voir avec la corruption et n'a rien à voir avec la collusion, donc on comprendrait mal qu'il subisse une punition aussi sévère que ça.
Ouais.
C'est son infraction, qui est une forme d'arrogance réservée aux riches, n'a rien à voir avec la punition qui, elle, dans la loi, est réservée aux criminels. Fait que ça, je trouvais ça un peu délicat. Et bien sûr, à chaque fois qu'on commente M. Péladeau, il y a des gens qui disent « Ah, il est bien dur avec M. Péladeau, puis il est pas correct, puis Pécopé, c'est un bon gars, puis la cause qu'il défend est bonne. » Tout ça est peut-être tout à fait vrai. Sauf qu'imaginez que ça aurait été quelqu'un de Radio-Canada, ou Paul Desmarais, ou Martin Cochon, c'est ici que je le mentionne,
oui,
qui avait été pris dans une affaire du genre, ben le Twitter de Pierre-Carl Péladeau ne dérougirait pas.
Ah ouais, non, c'est ça, il serait en feu.
Donc là, c'est lui qui est un peu pogné. Et, ouais, dernier élément ironique, amusant, quoique anecdotique, il est dans le trouble à cause d'une loi adoptée fin 2012, début 2013 par le bref gouvernement de Pauline Marois et parrainée par Stéphane Bédard. Mm. Stéphane Bédard a été ensuite leader de l'opposition et M. Péladeau avait dégommé Stéphane Bédard pour donner la fonction à Bernard Drainville à l'époque. Stéphane Bédard, pas content, et a quitté carrément la politique. Et maintenant, M. Bédard revient travailler pour M. Pelado chez Québécois comme un des participants à l'émission L'Ajoute. Fait que tout ça dans une ironie fort amusante.
Ouais, ça montre quelque chose d'intéressant quand même. Si tu permets, Yves-François, en terminant, j'aurais une question pour toi. Parce que j'ai vu passer ça, puis on en a parlé dans l'émission ce matin, je trouve ça un peu spécial. La candidate de la Coalition Avenir Québec dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, dans le secteur de Québec, justement, Émilie Foster, a publié quelque chose sur sa page Facebook. Puis toi qui as déjà été en politique, tu me diras si c'est une bonne idée, mais elle publie justement un statut où elle mentionne « Voici mes squelettes dans le placard ». Par exemple, quand je suis allé dans les bars à 16 ou 17 ans avant l'âge légal, j'ai déjà accroché une porte dans le stationnement de l'Université Laval, une porte de voiture, et je me suis fait prendre par le gardien et tout ça. Elle semble faire une espèce de profession de foi sur « voici ce que je pourrais avoir fait de mal dans la vie, je vous le dis tout de suite, pour empêcher que ça sorte dans la campagne électorale ». Quel est ton regard là-dessus?
Ça se veut sympathique. Je suis pas sûr que la Coalition Avenir Québec va trouver ça si sympathique que ça, parce que eux, leur politique, c'est plus de dire à le monde de se taire et de ne rien dire. Puis c'est des... Tu sais, c'est un peu comme dire « Hey, c'est quoi ton plus grand défaut? »« Ah, moi, je suis perfectionniste. » C'est de la fausse humilité.
Oui.
Ça ressemble un peu à ça, mais je pense que ça va passer passablement inaperçu. Il reste que le comté de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, est très important parce que c'est un gain possible pour la CAQ,
oui,
mais pas un gain acquis. Les libéraux qui ont le comté présentement risquent fort de le perdre, mais le Parti québécois présente quand même la fille de Félix Leclerc, Nathalie Leclerc, dans ce comté-là. Puis c'est quand même une solide candidature. Donc on peut penser, il y a une possibilité que entre les libéraux qui descendent et la CAQ qui monte, que le PQ pourrait se faufiler. Et c'est peut-être le seul gain potentiel du PQ dans tout ce qui n'est pas très, très périphérique au Québec.
Ouais.
Le PQ peut espérer gagner, vaguement espérer gagner Île-de-la-Madeleine ou Ongava et protéger certains des comtés qu'il a présentement. Mais un vrai gain, il n'y en a pas beaucoup qu'il peut faire, et on suppose que Côte-de-Beaupré, Charlevoix-Côte-de-Beaupré pourrait être un de ces cas-là. Mais la candidate de la CAQ va aussi vivre avec un autre handicap important, c'est celui du sujet du casino. Parce que si les candidats de la coalition Avenir Québec plus Québec-Ville veulent ou continuent à dire qu'ils aimeraient ça amener un casino à Québec, les gens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré la trouveront pas drôle, quoique la partie plus proche de Québec et très différente de celle qui est plus proche de la Malbaie dans ce comté-là.
Ouais. Merci d'avoir nourri mon savoir, Yves-François.
Ben, c'est fait en toute humilité, mon cher ami.
Merci aussi pour aujourd'hui. On se retrouve demain, nous autres.
On se retrouve demain.
Bonne journée, merci beaucoup.
Bye bye.
7h50, la chronique politique d'Yves-François Blanchet.